Des nouvelles sur la reconstruction du Népal par l'Association des amitiés franco-népalaises à Kompsur-Artubi.
En avril 2015, le Népal était frappé par de multiples séismes et faisait la priorité des aides humanitaires. Véronique Herman avait alors interviewé le président actuel de l'Association des amitiés franco-népalaises. 18 mois plus tard, notre collègue s'est interrogée sur l'utilisation de ces aides internationales et l'avancée des travaux réalisés. Elle a repris contact avec la même association et a rencontré la vice-présidente, Léone Francia. Adhérente active depuis 23 ans, Léone s'est rendue 37 fois au Népal pour mettre en place et assurer de nombreuses actions. Dans ce reportage, elle évoque l'origine et l'activité de l'association, la scolarité des enfants, l'aide humanitaire. Elle détaille l'état du pays et l'évolution de la politique népalaise.
Cette association est née parce qu'un de nos amis rentré du Népal a trouvé que l'école de Namo Buddha, qui à l'époque abritait une trentaine d'enfants, était en train de s'écrouler. Et cet ami a réuni d'autres amis. Et l'association Amitié franco-népalaise a été créée en 1992 pour aider ce petit peuple qui a tant de besoins. Nous nous sommes réunis, nous avons travaillé, nous avons récolté de l'argent et nous avons entrepris cette école à Namo Buddha, qui au départ était une école primaire. Puis la construction s'est agrandie pour arriver à 15 classes qui ont reçu jusqu'à 500 enfants et qui est devenue collège, école secondaire, high school comme ils disent. C'est Namo Buddha qui a été le point de départ de cette association. Depuis 23 ans, l'association a réalisé des adductions d'eau, notamment l'adduction d'eau de Bimkori, où 13 hameaux ont été alimentés en eau. L'autonomie agricole, à l'époque, était à peu près de 3 à 4 mois. Lorsque l'adduction d'eau a été terminée, et pouvant alimenter toutes les fermes et les terrains, l'autonomie est passée à 8 mois. Nous avons également pris en charge la scolarité des enfants jusqu'à leurs études finales.
Un système de parrainage ?
Non. Nous avions débuté avec un système de parrainage. Le système de parrainage, c'est quelque chose de très particulier. C'est-à-dire que ce sont des gens qui s'engagent à donner de l'argent toutes les années pour la scolarité d'un enfant. Très vite, nous nous sommes aperçus que pour des raisons qui appartiennent aux gens et sur lesquelles nous n'avons pas à émettre de jugement, eh bien ces gens se lassaient ou bien pour des raisons économiques ne pouvaient plus aider. Ça a été une grande question au sein de l'association, de savoir qu'est-ce que l'on pouvait faire. Nous avons arrêté le système de parrainage tel qu'il a existé au début et l'association a pris en charge ces enfants qui, au début, avaient été parrainés par certaines personnes. Le mot parrainage ne nous convient pas trop. Nous avons adopté le nom d'aide à la scolarité. Il nous est apparu que aider un enfant pendant les premières années de la scolarité, ce qui ne revient pas très cher, hein, un enfant à l'école primaire va revenir à peu près dans les 150-200 euros. Mais dès qu'il franchit le cap de la terminale, en ce qui concerne l'école primaire, à ce moment-là, le prix n'est plus le même et on peut compter à peu près 1500 euros par enfant pour le mener dans sa scolarité, l'habiller. Les enfants qui ont été pris il y a 20 et quelques années en parrainage ont terminé leur scolarité. Nous avons des gens qui individuellement aide au Népal, mais ça n'est pas l'association qui le fait.
Vous parliez tout à l'heure de l'image qu'ont les Occidentaux du Népal. Qu'est-ce qu'il en est réellement de la vie au Népal, de l'évolution du Népal?
En 80 ans, le Népal est passé de la féodalité au système de consommation de nos temps modernes. Cette évolution, elle est évidemment très rapide. Elle n'est pas toujours bien comprise des touristes qui parfois ne comprennent pas pourquoi les Népalais sont avides d'acheter, etc. Mais bon, tout est rentré chez eux aussi, la télévision, la mondialisation. Et par contre, économiquement, ils ne peuvent pas suivre. C'est un très gros problème. En fait, je reviens à l'association dont le but est d'aider le peuple népalais, mais cette aide, elle se fait en partenariat avec le peuple, à partir de leurs besoins, de leur culture. Car, c'est l'expérience qui nous a montré ça, très vite, nous nous sommes aperçus que lorsque l'on apportait une aide, sans que les gens du cru soient impliqués, ils n'ont pas de motivation et la pérennité de cette aide ne se fait pas. Qu'est-ce qu'il faut rechercher ? Il faut rechercher de les aider, mais de les aider à un certain niveau. C'est pas la peine de leur acheter une Mercedes. Ils pourront pas acheter l'essence et ils pourront pas la réparer mécaniquement. Essayons de leur apporter ce dont ils ont besoin au niveau des besoins primaires et après, eux auront à ce moment-là la capacité de passer à autre chose. Les écoles, c'est très important. Nous les accompagnons en construisant des écoles et en leur apportant le maximum de confort pour qu'ils puissent étudier. Par contre, nous laissons le soin à l'éducation nationale népalaise, on peut l'appeler comme ça, de mettre en place les instituteurs, les professeurs. Nous, c'est au niveau matériel qu'on va agir. Parce qu'il y a encore des endroits où les enfants vont à l'école. L'école n'a pas de lumière, pas de toilette. Et puis les enfants dans les villages peuvent faire des kilomètres pour aller à l'école, mettre 2-3 heures pour aller s'asseoir sur un banc, sans chauffage, etc. L'essentiel, c'est d'abord de leur apporter un certain confort. Et lorsqu'on leur a apporté le confort, nous trouvons de l'aide là-bas pour que l'éducation fournisse les instituteurs.
Quand ils ont fini leur scolarité, ils trouvent du travail ?
Ah, ça c'est un grand problème. Tout va dépendre de la caste. Les castes au Népal sont abolies dans la loi, mais dans la coutume et dans le fonctionnement, elles existent toujours. On peut se retrouver avec deux écoliers ayant fait les mêmes études. Un sera de haute caste, l'autre de basse caste. Eh bien, ce sera l'écolier qui sera de haute caste qui trouvera un emploi. C'est le système des castes. Et je pense que il faudra encore pas mal de temps pour abolir tout ça.
Le Népal a connu une catastrophe naturelle énorme en 2015. Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce que des travaux ont été réalisés ? Est-ce que les personnes ont retrouvé des logements avec les aides humanitaires ?
Les tremblements de terre de 2015 ont été meurtriers, ravageurs. Dire que les gens ont retrouvé leur maison, non, pas encore. Heureusement qu'il existe une multitude d'associations comme la nôtre qui aident directement au niveau du Népal. Alors, ce sont des gouttes d'eau, mais quand quelqu'un a soif, même une goutte d'eau, c'est important. Si on parle de l'aide internationale, cette aide internationale a été bloquée au niveau du gouvernement. Même le riz qui a été fourni par le Bangladesh, par la Chine, a été bloqué par le gouvernement, non distribué. Et aujourd'hui, même en ville, sur Katmandou par exemple, vous avez des camps de réfugiés, on va les appeler comme ça, puisqu'ils vivent sous des toiles, dans des camions désaffectés. dans des quarts désaffectés, avec des espèces de cabanes en tôle, en structure de bambou, sans eau, sans électricité, sans sanitaire. Il y a un camp qui n'est pas très loin de Baouda, à 8 km du centre de Katmandou. Il y en a un autre du côté de l'aéroport. 2 000-3 000 personnes sont parquées, j'aime pas bien ce nom, mais je crois qu'il faut être clair, qui sont parquées là. Quel espoir ? Ça, c'est un grand point d'interrogation. Vont-ils retrouver un logement ? Le Népal, qui est un des plus pauvres pays du monde, avec le tremblement de terre de 2095, certaines personnes pauvres ont basculé dans la misère.
Qu'est devenue cette aide humanitaire ?
Alors là, c'est une grande question à laquelle je ne pourrais pas répondre. Mais bon, il faut quand même savoir que la classe politique, bon, je ne vais pas me faire des amis en disant ça, mais la classe politique est corrompue. Eh bien, on peut dire que l'argent, bah, peut-être que l'argent a été mis de côté et qu'ils attendent. Je ne sais pas ce qu'ils attendent, mais peut-être attendent-ils.
Et concernant justement la politique intérieure du Népal actuellement, qu'est-ce qui se passe ? C'est un peu le bazar ?
Oh là là, la politique intérieure...
Comment le gouvernement est constitué ?
Le Népal, depuis 2008, est une république laïque. Jusque-là, le Népal était sous monarchie et l'hindouisme était religion d'État. De 1996 à 2006, il y a eu une insurrection, qu'on peut appeler l'insurrection du peuple. On pourrait la comparer à nos sans-culottes, mais avec quelques années de retard. Cette insurrection demandait l'abolition de la monarchie et l'abolition de la féodalité. Le Népal, et encore maintenant, pas partout, mais dans quelques endroits, il y a des gens qui ont le pouvoir, qui ne le cèdent pas, il y a toujours des serfs. Ce qu'on appelait, nous, les serfs. Et malheureusement, cette situation se passe de père à fils ou de mère à fille depuis des générations. Et ça, ça existe toujours, notamment dans l'ouest du Népal. C'est d'ailleurs de l'ouest du Népal qu'est partie l'insurrection, qui a été menée par des hommes qui se sont appelés maoïstes. Pendant toute cette période, c'est-à-dire pendant 10 ans, le monde occidental a peut-être pas très bien compris pourquoi ces gens se soulevaient. Et qu'est-ce que c'était, ces maoïstes ? Ils étaient déjà de politique à tendance communiste. Puis ils ont trouvé que ça allait pas assez vite, que la féodalité et la royauté emprisonnaient le pays. Il ne pouvait pas y avoir de développement. Et ils ont choisi le mot maoïste en faisant référence à Mao pour sa révolution en Chine, qui est partie des campagnes vers la ville. Et en fait, c'est pour ça qu'ils se sont appelés maoïstes. Alors oui, c'était des hommes de gauche, oui, c'était des révolutionnaires, mais non, c'était pas des Chinois. C'était bien des hommes du Népal qui avaient envie de liberté. Ils ont arrêté en 2006. Ils avaient une gouvernance au niveau des territoires qui était assez importante. Il y avait toujours une monarchie. Le roi a limogé les parlementaires, dont les maoïstes ne faisaient pas partie, bien évidemment. Ces parlementaires qui faisaient partie du Congrès népalais, qui étaient des hommes de droite, qui descendent également aussi du système monarchique, Rana et Panchaya, et qui sont de haute caste. Ces hommes se sont fait limoger par le roi. Ils n'étaient pas très contents. Et donc, ils se sont réunis. Ils ont dit, bon, ben maintenant, on va faire alliance avec les maoïstes. Et en 2006, il y a eu une grève générale. J'étais présente au Népal, qui a été quand même meurtrière. Le roi a envoyé les hélicoptères tirer dans la foule. Il y a eu beaucoup de blessés. Il y a eu des morts également. Mais la pression populaire a été tellement forte que le roi a reculé. L'alliance s'est faite entre la droite et les maoïstes qui ont déposé les armes. À partir de là, il y a eu une demande qui a été faite pour abolir la monarchie, ce qui a été fait. L'entente entre eux n'a pas toujours été excellente, mais enfin en 2008, ils sont arrivés tous ensemble à décréter une république laïque. Partant de là, le roi a été écarté, mais les hommes de pouvoir ne l'étaient pas. Hein. Il a fallu attendre 2015, après le tremblement de terre, pour avoir une nouvelle constitution. Ça veut dire que le pays a vécu presque 8 ans sans constitution, avec ce que ça peut engendrer au niveau de la corruption et de la montée des mafias, car il y a toujours quelqu'un qui prend le pouvoir. Seulement, cette constitution ne plaît pas à l'Inde. Donc l'Inde a fermé les frontières.
Qu'est-ce qui ne plaît pas à l'Inde dans cette constitution ?
L'Inde a toujours eu un grand pouvoir dans la politique népalaise. D'ailleurs, quand le Népal parle de l'Inde, c'est un pays, c'est le grand frère. Pour aller au Népal ou en Inde, nous avons besoin d'un visa. L'Indien ou le Népalais peut passer la frontière sans visa, comme si c'était des pays frères. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont frères ? Parce que si on recule dans le temps, on s'aperçoit que les monarques et les ranas viennent du nord de l'Inde. Ça, c'est important. On s'aperçoit également que l'Inde a traité avec le Népal dans des temps un peu reculés, dans les années 1951, puisque le roi Mahendra était réfugié en Inde et revenu au Népal pour reprendre le pouvoir avec l'aide de l'Inde. Le Népal est le réservoir d'eau de l'Inde du Nord. Il y a énormément de traités. En fait, l'eau du Népal appartient à l'Inde. Alors, certains gouvernements, notamment les maoïstes, ont essayé de revenir sur ces traités. Ça ne plaît pas à l'Inde, ça. Hein ? On ne perd pas ce qui est vital, quoi. Chaque fois qu'un gouvernement veut prendre un peu d'indépendance vis-à-vis de l'Inde, le grand frère se met en colère et bloque les frontières. En plus, c'est très facile, hein, car géographiquement, on pourrait comparer le Népal à la pièce d'un puzzle qui s'encastre dans le continent indien et qui est fermée au nord par la barrière himalayenne qui fait frontière avec la Chine. Donc deux grandes puissances qui entourent ce petit pays qui, quelquefois, n'est même pas marqué sur les cartes géographiques. Quelquefois, vous allez trouver le continent indien, on va marquer l'Inde, et l'Inde va jusqu'à la barrière himalayenne. On a rayé le Népal. Ce petit pays, il est vite asphyxié. Il n'a pas d'ouverture à la mer. À gauche, à droite, au sud, il est entouré par l'Inde, et au nord, par la Chine. Lorsque ce petit pays, tout petit poussé de l'Asie du Sud-Est, a quelques velléités d'indépendance et se tourne vers la Chine, l'Inde se met en colère. Et quand l'Inde ouvre les bras au Népal, alors c'est la Chine qui se met en colère. Car stratégiquement, il est fort mal placé. L'Inde ne veut pas perdre le Népal. Mais la Chine ne veut pas que l'Inde monte jusqu'à l'Himalaya. C'est une lutte permanente. Il ne peut pas avoir d'indépendance dès l'instant où il a un peu l'idée d'être lui. Eh bien, il y en a un des grands qui va essayer de l'absorber. L'Inde est plus présente que la Chine malgré tout. Hein. Alors les maoïstes ont été au gouvernement. On a eu un des grands leaders de l'insurrection qui s'appelle Prachanda. C'est un surnom, hein, ça veut dire le féroce. Qui a, en 2006, a été nommé premier ministre du Népal. Ça a très peu fonctionné. Il a dû rester un an et demi. Ensuite, la droite a repris le pouvoir. Puis un autre maoïste, Babouram, le parti communiste est quand même divisé, qui a une autre idéologie, a repris le pouvoir. Babouram a été éjecté. Ça a été à nouveau le congrès népalais, c'est-à-dire la droite. En 2015, au moment des événements catastrophiques, il y avait au gouvernement le parti communiste unifié. Tout ça, c'est que des mots, des appellations. Parce que dans la réalité, le Parti communiste unifié serait comparable au centre droit de chez nous. Ce gouvernement a essuyé la catastrophe. Il est resté 8 mois. Et là, il vient d'être balayé à nouveau par une alliance que je qualifierais de contre-nature, puisque c'est la droite et l'extrême droite qui à nouveau a fait alliance avec les maoïstes pour balayer le centre droit. Et aujourd'hui, nous avons Prachanda qui est Premier ministre. Alors, le Premier ministre d'avant avait fait un pas vers la Chine. Ça n'a pas plu encore à l'Inde, qui a fait quand même un blocus de 3 mois après les tremblements de terre, ce qui n'a pas arrangé le pays. Au niveau économique, le litre d'essence s'est vendu au marché noir à 6 euros le litre. Le riz, les légumes ont augmenté, ils ont doublé, une inflation formidable. Puis l'Inde a réouvert, le gouvernement a sauté, et je vous disais donc c'est Prachanda, de confession on va dire communiste, qui aujourd'hui est Premier ministre, et qui lui va se rapprocher de l'Inde. Toujours par rapport à cette constitution qui ne plaît pas à l'Inde et qui ne plaît pas à cette population madhési. Alors, les madhési, c'est une population qui se trouve sur le sud du Népal, que l'on appelle le Terai, qui fait frontière avec l'Inde. Et cette partie, c'est la partie plaine. Plaine, P-L-A-I-N-E, hein, évidemment. On pourrait dire que c'est presque le grenier du Népal. Donc ils ont un pouvoir assez important. Les madhési de tout temps ont eu un pied indien, un pied népalais. On pourrait vous raconter un tas d'anecdotes, notamment sur les velléités territoriales de l'Inde, qui de temps en temps repoussent la frontière de façon à récupérer une partie de ce terrail, parce que ça les arrange. C'est très difficile pour le Népal d'obtenir une indépendance. Parfois, quand on parle avec les Népalais, ils ont l'impression que l'Inde joue un peu le jeu qu'elle a joué avec le Sikkim. C'est-à-dire, vous n'arrivez pas à vous entendre, on va vous aider, on vient, et puis quelques années après, on leur demande s'ils veulent être toujours citoyens du Sikkim ou citoyens indiens, et là, on annexe le Sikkim. Et en fait, politiquement, ça fait des années qu'on se pose la question de savoir si c'est pas l'idée de l'Inde d'annexer le Népal.
Comment vous envisagez l'avenir immédiat du Népal ?
Il va m'être difficile de répondre. Très difficile. Parce qu'on se trouve aujourd'hui devant un pays qui n'a pas de travail, où les forces vives, les jeunes, cherchent à partir. Il y a des milliers de Népalais qui travaillent en Arabie Saoudite, au Qatar, qui sont partis aux USA, qui partent en Europe. Même en France, nous avons une diaspora népalaise sur Paris qui est assez importante. Cette force vive, elle s'en va. Il suffit de monter dans les villages pour s'apercevoir qu'à certaines périodes, il ne reste plus que les vieillards, les femmes et les enfants. Tous les hommes qui peuvent louer leurs bras sont partis. L'avenir du Népal, je pense qu'il va falloir attendre encore une ou deux générations avant que les choses arrivent à une évolution, c'est-à-dire à un pays qui puisse vivre si l'Inde laisse faire. Maintenant, si l'Inde ne laisse pas faire, eh bien l'Inde annexera le Népal.
Est-ce que vous pouvez nous dire un mot en népalais ?
Oui, on va le tenter. Népal Merosati is dere dere lambro. Népal, mon ami, tu es vraiment très beau.